Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous t'en prions que ton Esprit Saint nous accompagne. Que tout soit fait sur ton regard et tout ce qui est dit soit fait et dit uniquement pour la gloire de ton nom. Et nous nous mettons sous la protection de notre maman, Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Alors, qui vient d'Avignon? Personne d'Avignon?
Oui, pardon, oui.
Et alors?
De Carpentras plutôt.
Carpentras, d'accord.
Ok. Et le reste, tout le monde vient de Lyon.
Sinon, encore?
Paris.
Pas parisienne. Ouais. Une parisienne. Eh oui. Quel quartier?
Cinquième.
Bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez entendre?
Votre témoignage.
Ok. Ma façon de m'exprimer, c'est un petit peu comme si mon petit-fils, l'aîné, a 10 ans. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence entre lui et certains d'entre vous. C'est, je dis, une causerie, parce que bon, peut-être ça sera mieux dans ce sens, ou c'est un grand-père en même temps qui s'adresse à vous. Un grand-père qui était destiné à devenir ayatollah, mais il a rencontré Jésus et les mains tournées. Je suis né dans une famille musulmane chiite, pratiquant, ils pratiquaient leur foi, mais en étant très très libre. Côté ma mère, mon grand-père ainsi que ses deux frères, ils avaient fait leurs études entre les deux guerres à la Sorbonne. Et côté mon père, donc, tout le monde était en Iran, ils avaient fait des études de branche banquier. Et mon grand-père, de son enfance, il avait plusieurs camarades d'école, qu'ils étaient sur le banc d'école ensemble, et qu'ils étaient devenus ayatollahs. Et lui, étant très très instruit sur le plan religieux, son rêve était que son petit-fils devienne ayatollah. Ayatollah, c'est le plus haut rang de clergé musulman chiite. Le monde chiite est dirigé par un conseil d'ayatollah, composé par 5 plus grands. Et parmi les 5, il y en a un qui est choisi comme président de cette conseil, un petit peu comme la conférence des évêques dans un pays, mais le monde chiite n'a qu'une seule conseil à travers le monde. C'est pour ça que depuis tout petit, je l'accompagnais dans différentes célébrations, dans différentes réunions, et j'apprenais très très jeune le Coran. À 5 ans, j'avais même appris par cœur un certain nombre de sourates, les petites portions de Coran, et que quand il y avait des réunions, ils me demandaient bah, tu veux bien lire tel de... bah, je récitais alors. Tous les vieillards, il a cotisé. Et le petit Hossein, parce qu'à l'époque, je m'appelais Hossein, il était... Mmh. à l'âge de 13 ans, mon grand-père me dit, j'avais fait une bêtise énorme. Donc il voulait me amener sur le chemin de ne pas faire de bêtises. Et il m'encourage à lire des livres sur la foi, en me disant que, écoute, il vaut mieux que tu lises et te connaître ta foi pour être fidèle. Très bien. Donc, il me donnait des livres, et après on se voyait, j'avais des questions, je lui posais des questions, il me répondait. Quand il voyait sur mon visage que la réponse n'était pas convaincante, il appelait un de ses copains, Ayatollah, il prenait rendez-vous, on allait chez son copain, autour du repas, on partageait et je posais mes questions. Petit à petit, les réunions devenaient de plus en plus importantes où j'allais une fois par mois avec lui dans une ville qui s'appelle Qom, je ne sais pas si vous avez entendu ou non, c'est là qu'il y a les plus grandes facultés de théologie islamique chiite en Iran. Et dans les cours privés donnés par des ayatollahs à leurs disciples particuliers, donc j'assistais et je recevais des enseignements. À l'âge de 14 ans, j'étais élu comme premier chantre coranique du capital. Bien entendu de mon catégorie, hein, dans la même catégorie des jeunes de mon âge. Et j'ai commencé à enseigner le Coran dans le mosquée de mon quartier. Et là, vous pouvez imaginer la fierté de mon grand-père. Très très rapidement, j'étais repéré par les mouvements politico-religieux islamiques. Et j'étais embrigadé dans un mouvement qui, à l'époque de Shah d'Iran, était interdit. C'était des mouvements clandestins, souterrains. Le mouvement s'appelait Hojatiyye. Et le produit le plus fameux de ce mouvement, est-ce que le nom Ahmadinejad lui dit quelque chose? Il était président de la République islamique il y a... Il y a eu Ahmadinejad, après, il y a trois mandats. On était ensemble. On était dans ce mouvement. Moi, j'étais formé pour devenir idéologue, pour former les jeunes. Et lui, après notre formation idéologie, est entré dans le mouvement militaire. Donc il était l'un des commandants de mouvement quand ils ont attaqué l'ambassade des États-Unis à Téhéran après la Révolution. Nous formions les gens pour combattre et lui était l'un des commandants. Et quand je parle de formation idéologique, on formait les gens, comme ici on a l'habitude de dire, le lavement de cerveau. On formait les gens en sorte que même porter la ceinture explosive. C'est pour ça que j'utilise le terme idéologie, qui rend complètement aveugle l'individu en face. Il y a eu la révolution, mais toutes ces choses-là, ça se passait à l'insu de ma famille. Mes parents, mes grands-parents ne devaient pas être au courant que je faisais partie de ce mouvement par mesure de sécurité. Et pendant la révolution, un soir, lors d'une réunion assez importante chez mon grand-père, je me suis avancé vers le micro. Ben, tout le monde avait l'habitude de me voir chanter des litanies, des choses comme ça, ou bien de réciter le Coran, animé. Donc tout le monde a pensé que c'est la même chose. Et j'ai fait mon premier discours révolutionnaire dans la maison de mon grand-père. Et quand le discours est fini, je suis parti et tous ceux qui étaient présents sont sortis avec moi pour manifester. À mon retour, mon grand-père m'attendait devant chez nous, pas devant chez lui où j'avais gaffé. Dès qu'il m'a vu, il s'approche et me dit, depuis tant j'espérais en toi un homme juste. Mais avec ce que tu as fait ce soir, tu n'as plus le droit de prendre la parole dans les assemblées, dans ma maison. Et notre relation a capoté. Mais très rapidement, après la révolution islamique, je me suis rendu compte de la gravité d'actes que j'avais commis. Parce qu'on espérait un gouvernement juste, on espérait un gouvernement juste pas au niveau de justice pénale, mais juste au niveau social. Et j'ai vu que j'avais tout saboté. Je suis retourné auprès de mon grand-père en lui disant, voilà, je m'aperçois que je vous demande pardon. Et il m'a dit, mais oui, mais ça c'est la révolution. Mais aucune révolution n'a marché dans le bon sens. Regarde un petit peu la révolution de la France. Il n'y a rien à dire. Mais continue à chercher pour que tu puisses te rapprocher de plus en plus à Dieu. Maintenant, tu es majeur, tu es adulte, tu peux aller librement poursuivre les enseignements de tel ayatollah que tu connais. Et j'ai continué 2 ans, et finalement, j'ai fait comme Pilate, je me suis lavé les mains de l'islam. Il y avait tellement de choses incompréhensibles. Ce n'était pas possible. Donc, je suis devenu athée. Mais athée, le monde athée en Occident, c'est un monde athée gentil. J'étais athée, violent, refusant même de prononcer le nom de Dieu sous n'importe quelle forme. En Iran, nous avons l'habitude, quand on veut dire au revoir à quelqu'un, on l'envoie sous la protection de Dieu. Même cette expression, je refusais de le dire. Enfin, sois raisonnable, tu veux l'envoyer sous la protection de quel Dieu? Dieu n'existe pas. Et là, pour moi, c'était la chute vertigineuse dans le monde de péché, pour résumer. J'avais fini mes études, j'ai travaillé comme infirmier spécialisé au bloc opératoire et dans l'hôpital où je travaillais, il y avait 50 médecins associés. L'équipe des médecins était composée de majoritairement musulmans chiites, 5-6 musulmans sunnites, il y avait 7 médecins juifs, il y avait 5 Baha'is, une secte dérivée de l'islam, et un seul chrétien. Un seul. Il était encore plus petit que moi, orthopède, et si vous regardez sur l'internet par curiosité, regardant les tables d'opération pour les chirurgies orthopédiques, vous voyez que les tables sont assez hautes pour pouvoir la possibilité avec les membres de table d'opération manipuler les membres de personnes qui est cassée ou bien. Il était vraiment petit. On était obligé de mettre des estrades pour qu'ils puissent arriver à la hauteur de table. Donc, il y avait beaucoup de gens qui se moquaient de lui à cause de sa taille. Mais
grande. Je travaillais avec lui comme son assistant et j'observais comment il travaille. 7h du matin jusqu'à 2h après-midi, au bloc opératoire, d'une salle d'intervention à l'autre, il enchaînait. Pour être 7h au bloc opératoire, 6h il était déjà à l'hôpital pour visiter tous ses patients qu'il allait opérer. 14h il sortait de bloc, le bloc était au premier sous-sol. Il avait un serviteur, un garçon qui travaillait pour lui, qui l'attendait derrière la porte opératoire avec un sandwich, un boisson. Il ne prenait jamais l'ascenseur, donc il montait 3 étages dans l'escalier, le temps de faire le trajet de 3 étages. Le sandwich était fini, le boisson était bu. Il commençait les consultations dans la clinique de l'hôpital, des malades qu'ils avaient opérés le mois d'avant, qui venaient pour le contrôle, tout ça, jusqu'à 16h. 16h, il partait à son cabinet personnel, où c'était une toute petite clinique privée. Il avait le bloc opératoire, le service de radiologie, physiothérapie, tout sous son contrôle. Jusqu'à Dieu seul le sait. Un soir que j'étais en garde à l'hôpital, j'étais de garde, vers 1h du matin, il s'est pointé. J'étais dans un service en train de faire la fringue. Oh, tu es là, c'est très bien, viens avec moi, je m'inquiète à propos de tel patient et je voudrais que tu m'assises, on va changer de pansement. D'accord. Et là, c'était le goutte qui débordait la base. Quand il m'a dit, j'ai vu que vous aviez encore la nourriture sous la table, j'ai pas mangé, je viendrai prendre un morceau avec vous. Une heure de matin. On arrive dans la chambre de patient, et à l'époque, les produits anesthésiques n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui, les appareils n'étaient pas pareils qu'aujourd'hui, surtout en Iran. Donc le malade était pratiquement encore dans l'autre monde à cause de l'anesthésie. Et là, j'ai osé lui demander, mais pourquoi vous vivez comme ça? Quelle est la raison? Quelle est votre philosophie de vie? Étonné, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, mais je vous vois arriver telle heure, tel programme, telle chose, telle chose, telle chose. 1h du matin, vous vous pointez. Alors, si vous m'avez dit que vous n'arriviez pas à dormir parce que vous étiez inquiet, j'aurais mieux compris, mais vous venez de votre clinique à cette heure-ci, vous n'avez pas de femme? Mais si, tu sais très bien que j'ai une femme. J'ai dit, et alors? Il m'a dit, mais il sait comment je fonctionne. Quand je lui ai demandé au mariage, je lui ai expliqué comment je vivais. Et elle a accepté. Et vos enfants? Ben, ils sont grands, ils sont à Londres, ils font leurs études, et quand j'y vais 2 fois par an pour les séminaires médicaux, entre les séances de séminaires, je les vois, on mange ensemble, on discute, et c'est très bien. Mais enfin, pourquoi? Vous êtes 50. Je vois vos collègues, vos confrères, qui même n'hésitent pas à piquer la passion de l'autre à son propre compte. Mais à votre sujet, j'entends, si un patient il vient vous voir en disant « j'ai pas d'argent de vous payer », vous ne prenez rien. S'il dit « je n'ai même pas d'argent de payer votre équipe », vous ne prenez rien et vous nous payez de votre propre poche. S'il pousse encore en disant « je n'ai même pas de quoi payer l'hôpital », vous lui signez gratuité de ses soins, vous le renvoyez et vous le prenez. Je sais qu'il y a une différence entre vous et les autres. Donc vous ne courez pas après l'argent. Un petit sourire. D'autre part, je sais que vous ne cherchez pas le renommé. De 4 coins du monde, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. À la fenêtre. Ah. vous ne les cherchez pas renommés, parce que de quatre coins du pays, les malades viennent vers vous. Quatre coins du pays, l'Iran, il fait trois fois la superficie de la France. Et ce n'est pas les plus riches qui viennent vers vous. Les riches, ils vont se faire soigner aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, France, Allemagne. Les plus pauvres, ils vont en Israël. Hein? Mais ceux qui restent, qui viennent chez vous, ce sont vraiment les. Le sourire devenait un peu plus important. Alors là, il m'a dit, fiston, tu sais, moi je suis chrétien. Mais enfin, bon sang, c'est justement ça qui m'embête. 50 médecins, un seul chrétien de vivre comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il me dit, ben, parce que mon Dieu est amour. Là, j'ai explosé. Mais d'où est-ce que vous avez sorti cette connerie de parole? Dieu d'amour? Mais, hé, oh, moi je ne le connais pas. Je connais Dieu avec son nom. Mais l'amour ne figure pas parmi cette liste. Mais d'où est-ce que vous sortez? Et là, il m'a raconté son histoire. Il était troisième enfant d'une fratrie de sept. Maman, mère au foyer, ce qui était normal en Iran, surtout à son époque. Papa, maçon. Et un jour, pendant son travail, un accident, échafaudage s'écroule, le papa tombe et il meurt. Maman se met à travailler. Seule chose qu'il pouvait faire, la femme de ménage, la lessiveuse, hein, chez les gens bien portants. Et arrivé à ce point, il me dit, tu sais, à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui qu'on ouvrait le robinet, l'eau coulait. Hein. Dans la cour de chaque maison, il y avait un bassin important, on remplissait d'eau et toutes les lessives, les linges, la vaisselle, tout ça, ça se faisait avec l'eau de ce bassin qu'on puisait. Et en hiver, ma mère était obligée de briser la glace qui était sur cette bassine d'eau pour pouvoir faire son travail. Maman nous a élevés dans cette misère. Mais parce que Dieu est avec nous, ce Dieu d'amour, nous avons pu survivre. Et nous avons fini tous universitaires. Nous avons fini tous universitaires. Ingénieurs, nous sommes trois médecins dans la famille, professeurs même. Tu vois, parce que si notre Dieu n'était pas amour, on ne serait pas. Et le jour, donc il avait fini ses études de lycée, parmi les premiers, le roi lui avait accordé une bourse d'études pour la médecine. Il avait fait sa médecine parmi les 10 premiers. Le roi l'avait envoyé en Angleterre pour son spécialisation. Il avait réussi au collège royal d'Angleterre, parmi les premiers. Et il me dit, le jour où j'ai prononcé mon serment à Hippocrate, j'ai fait un autre serment dans mon cœur avec ce Dieu d'amour. Jusqu'à maintenant, c'est toi qui me portais. Maintenant, je voudrais qu'il soit moi qui te porte. Je me mettrai à ton service en soignant le peuple de mon pays, surtout ceux qui sont dans le besoin, dans la misère. Voilà pourquoi je vis. Et je vous assure, pendant qu'il me racontait trois fois, il a eu larmes aux yeux. Ce Dieu d'amour. nous avons fini notre travail dans la chambre de patients, parti, et plus jamais un échange sur ce sujet. 3 mois après, je commençais mon service militaire. C'était en pleine guerre, l'Iran et l'Irak. Et pourquoi vous étiez resté dehors timidement?
Je parlais avec le père.
Oh! Alors, il m'a dit qu'il va dormir et il est en train de papoter avec vous.
Voilà, c'est ça.
Et il m'enregistre en plus. Pardon, père. Et donc, j'étais affecté dans la gendarmerie. Et comme je ne voulais pas aller au front, même s'il m'envoyait comme infirmière, mais j'en voulais pas y aller. Et j'avais réussi à me faire caser dans une brigade de gendarmerie et je suis devenu officier d'état civil. C'était très bien. Jusqu'un jour, je me suis retrouvé en prison. Parce que j'avais empêché l'exécution de 3 jeunes filles de 17 ans, opposant au régime des ayatollahs. Ils étaient condamnés à être enterrés vivants. Et oui, quand je suis arrivé, ils avaient creusé avec une pelleteuse. Les filles étaient au fond de trou et ils se préparaient à remplir le trou. J'ai sorti les filles, je les ai envoyées chez le médecin légiste. Mon doute a été confirmé par le médecin légiste. Ils étaient violés tous les 3 par les gardiens de la Révolution. Parce que, selon la loi, on ne pouvait pas exécuter une jeune fille vierge. Ça s'appelle l'islam. Que personne ne vient me dire, nous avons le même Dieu, nous avons le droit de discuter et dialoguer. À peine quelques heures après que j'ai sorti les filles de... Donc je me suis fait arrêter, mis en prison. L'acte que j'avais commis, c'est-à-dire l'empêchement de l'exécution d'ordre de juge islamique, c'était, surtout en tant que militaire, peloton d'exécution sans jugement. Les prisons en Iran, c'est pas comme ici. Hein. Surtout les prisons militaires. Ici, les prisons, c'est le palais de repos. Hein. Avec les lits, la télé, les salles de musculation. Hein, celui qui est faible, qui entre, il va sortir Arnold Schwarzenegger. Donc, vous voyez. En Iran, c'est pas comme ça. Je me suis retrouvé en cellule solitaire, sol de béton, pas de chauffage, un seul morceau de couverture pour me couvrir. Quand je demandais la possibilité de me doucher, j'étais obligé de me doucher avec l'eau de robinet dans la cour de prison. Et c'était plein hiver en Azerbaïdjan, un froid équivalent au froid de Sibérie. 2 mois et demi, j'attendais impatiemment le jour de mon exécution. Je me disais, au moins comme ça, je serai libéré. Mais mon Dieu est amour, ne m'avait jamais quitté. Il était resté dans ma tête et ça tournait. Dans la prison, ça ne tournait plus. C'était devenu comme un massue qui descend chez le ferrailleur pour former, pour forger hein, la fer, ce l'enclos là, vous voyez. Ça tombait sans cesse dans mon cerveau. Moi qui j'avais arrêté de prier depuis facile 3 ans, plus, d'un seul coup, je me sens que cette phrase, ça change de forme sans que je prononce quelque chose. Dieu d'amour, si tu es Dieu d'amour, je n'ai pas commis de péché, je n'ai pas commis de crime, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Une fois que la phrase était formée dans ma tête, et cette fois-ci c'est elle qui tourbillonnait, ce n'était plus le pote, ni... Mais ça tourbillonnait. Ça a pris 3 jours. Le gardien est venu ouvrir la porte. Le commandant de prison t'attend dans son bureau. J'arrive dans le bureau du commandant. Il me tend une enveloppe. Allez vous présenter à telle brigade. Pardon ? Allez vous présenter à telle brigade. J'ai dit, mais commandant, j'attends mon exécution. Taisez-vous, allez vous présenter à telle brigade. Donc je suis retourné dans mon brigade en reprenant mes fonctions. 3 jours. En France, il y a une expression, il y a un proverbe, quelque chose comme ça, qui dit « le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre ». À peine un mois et demi après mon sortie de prison, on nous signale la découverte d'un cadavre au bord de la route. Donc je suis dépêché sur les lieux avec mon équipe, on fait transférer le corps chez le médecin légiste, et le lendemain, je me présente pour l'autopsie. Pour assister à l'autopsie avec le médecin légiste. Et le médecin légiste, il dit, tu n'as rien trouvé, ni veste, ni vêtements, ni carte, ni... Non. Mais c'est très facile de trouver son identité. C'est un chrétien. Ça suffit que tu t'adresses à des églises de la région, de la ville, tu vas trouver rapidement. Je te promets, en moins d'une semaine, tu auras son identité. Ça a pris à peine 48 heures. Ma question, mais enfin, d'accord, vous êtes devant ou quoi? Pourquoi? Ben, il n'est pas circoncis. Donc, s'il était circoncis, ça s'étendait aux musulmans, aux juifs, aux baraïs. Il n'est pas circoncis, c'est seulement les chrétiens qui ne sont pas circoncis. Donc, dépêche-toi. La cause de décès, tel. Okay. Et c'est par le pasteur évangélique de la ville de Tabriz que cet homme faisait partie des membres de sa communauté. Donc nous avons pu l'identifier. Donc je travaillais avec ce pasteur pour recevoir la famille, pour les interroger, tout mon enquête. Le pasteur était un jeune, sympa, formidable. Et quand l'enquête est finie, je lui dis, excusez-moi, vous êtes chrétien? Un chrétien un jour m'a dit que votre Dieu est amour, c'est vrai? Il me dit, ben, bien sûr. Je dis, j'aimerais bien le connaître. Vous accepteriez de me le faire connaître? Ben, avec joie. Donc, j'allais une fois par semaine chez lui, le soir, on se mettait à table avec sa femme, ses enfants, on parlait, en sortant, il me donnait 1, 2, 3 livres, je les cachais sous ma chemise pour entrer dans la brigade, il ne fallait pas que les gens me voient. Et j'ai commencé comme ça à connaître Jésus, ce Dieu d'amour. J'aurais pu recevoir le baptême dans l'église évangélique très rapidement. 6 mois après, il était disposé à me baptiser. Mais il m'a dit, tu n'habites pas à Tabriz, tu es de Téhéran. Ce sera bien que tu puisses trouver quelqu'un qui deviendrait ton parrain et qui puisse t'accompagner. Le parrain. Alors moi, tout de suite, je suis parti sur le film Parrain. Vous vous rappelez, hein? J'ai dit parrain, j'ai pas besoin de parrain. Moi-même, je suis parrain. Et il m'a dit, non, c'est ça la signification. Donc j'ai dit, mais au lycée, j'avais un copain qui était chrétien. Tu es en contact avec? Je dis, oui, j'ai son numéro de téléphone. Appelle-le. Donc je l'appelle. Il s'appelait Robert Samimrad. Aujourd'hui, il habite à Los Angeles. Donc, Robert, c'est moi. Étonné, après tant d'années, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu accepterais de venir mon parrain? Bon, ça suffit, hein? Non, Robert, je suis sérieux, je suis à Tabriz, dans une église, donc le moment de mon baptême s'approche, et il faut que j'ai un parrain en dehors de toi, à Téhéran, je ne connais pas d'autres chrétiens. J'aimerais que tu deviennes mon parrain. Alors cette fois-ci, c'est lui qui a commencé à m'insulter. Toi, le Hezbollah, sans raison, toi que tu ne comprenais rien avec une telle agressivité, tu veux devenir chrétien. En plus, tu me demandes de devenir ton parrain. Tu es gonflé, tu es... J'ai dit, mais calme-toi. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a tapé sur la tête, voilà. Alors, où est-ce que tu veux être baptisé? À Tabriz. Dans quelle église? Je ne connais pas. Celui qui va te baptiser, je ne le connais pas. Il était catholique. C'est sûr qu'en Iran, les dialogues entre les églises n'est-ce pas aussi facilement qu'ici. Hein? Alors, le pasteur, il m'a dit, je suis prêtre, je suis pasteur. Tu lui dis, c'est telle personne de telle église. Alors là, cette fois-ci, il a atteint le sommet de ses insultes en disant, tu oses me demander de devenir ton parrain alors que tu veux être baptisé dans une église évangélique? Impossible. Le pasteur, il a souri, il m'a dit, mais c'est pas grave. Arrête, raccroche. J'ai dit, bon, ok, Robert, je viendrai te voir quand je serai à terre. Le pasteur m'a dit, laisse avaler la pilule et quand tu vas en perme, va le voir. Je suis allé le voir et il m'a conduit auprès de son prêtre, le curé de sa paroisse, un jeune aussi. Et on y rencontrait au service militaire, nous n'avons pas le droit de nous déplacer, même pendant la permission en tenue civile. Donc, le prêtre catholique, il me reçoit, malgré ma tenue, et il me dit, bon, il reste combien de temps à finir votre service militaire? Ah non, peut-être 12 mois, peut-être 13 mois, parce que la période de prison, je ne savais pas que si j'allais faire le supplémentaire pour rattraper au long. Il me dit, bon, allez-y. Continuez avec le pasteur qui vous a accueilli et réfléchissez. Si vous tenez le coup et vous ne recevez pas le baptême avant la fin de votre service militaire et que vous avez le désir d'entrer dans l'église chrétien-catholique, venez me voir. On en parlera à ce moment-là. Donc je suis sorti, j'ai dit à Robert, ben, ton curé m'a envoyé sur la rose, hein, poliment, mais il m'a envoyé sur la rose. Il m'a dit, non, c'est un homme sage. Donc je retourne à Tabriz, je vois le pasteur, alors qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé? J'ai dit, mais le curé, il vous connaissait, et il m'a encouragé de continuer avec vous. Mais par contre, il me dit, si je veux être baptisé dans l'église latine, il faut que j'attende la fin. humilie pour vous avez la chance de prendre votre décision. Et là, je lui dis, mais quelle est la différence? L'Église, c'est l'Église, non? Vous dites, vous êtes tous chrétiens, vous croyez en Jésus, alors pourquoi, oh, ils sont catholiques, vous, vous êtes protestants, et encore, Robert m'a expliqué qu'entre les protestants, il y a des évangélistes, il y a des pentecôtistes. Et le pasteur, il me dit, mais c'est pas tout, il y a une autre branche, l'orthodoxie. J'ai dit, alors, il me dit, mais c'est pas à moi de vous expliquer, c'est à vous de découvrir. Je peux vous donner l'adresse de différentes églises, vous allez les rencontrer, et on en parlera après. Donc, la première adresse, l'église catholique à Tabriz. Un vieux curé, à l'époque il avait 82 ans, lazariste de la congrégation de Saint-Vincent-Paul, en charge de paroisse catholique de Tabriz, je suis allé frapper à la porte, une gentille petite sœur de charité qui ouvre la porte de la cour, très âgé aussi. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Si je viens voir le curé. C'est pas possible, il est en réunion. La porte fermée. Il n'a même pas laissé entrer dans la cour. Hein. Le lendemain, toute une semaine, septième jour, je forçais la porte. La petite sœur, il risquait de tomber vraiment. Je forçais la porte, je suis entré. J'ai dit, j'attends ici le temps que le curé vienne. Et un quart d'heure après, il est sorti de son bureau avec d'autres personnes. Il donnait des cours de français. Au lieu d'évangéliser. Des toute petite gentille fille Richard de la ville de Tabriz qui venait apprendre le français parce que ça s'affichait bien dans la famille. Nos enfants parlent français, nos enfants. En me voyant, il a poussé les filles pour les protéger, bien entendu, ils ont peur. Dans son bureau, il... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Oui, bonjour. Pourquoi vous êtes là? Je voulais vous voir. Mais pourquoi? Je dis, on m'a dit que votre Dieu est amour et je voudrais connaître ce Dieu d'amour. À son âge, vous ne pouvez imaginer la force qu'il a trouvée. Presque, il m'a soulevé de la sol, conduire à la porte. Il m'a mis dehors. Une fois la porte fermée, il a crié, « Ici, on ne fait pas ce genre de choses !» Là, j'ai explosé de colère et incompréhension. Ici, on ne fait pas ce genre de choses. Donc, je suis retourné retrouver le pasteur. Je ne pouvais pas aller dans le brigade. J'étais dans un état... Mais qu'est-ce qui se passe pour gratuit comme ça? J'ai dit, voilà ce qui se passe. Cette fois-ci, là, bien. C'est ça la différence entre catholique et protestante. C'est ça la différence entre catholique et protestante. Aujourd'hui, avec pratiquement 40-45 ans de recul, je comprends le sens de cette parole. J'avais bien compris bien avant, pas à ce moment-là. Alors, il enchaîne, est-ce que vous voulez que je vous donne l'adresse de l'église orthodoxe? Mais je vous préviens, les catholiques sont beaucoup plus gentils que les orthodoxes. D'accord. J'ai continué avec lui, j'ai refusé de recevoir le baptême dans l'église évangélique. vu comment Robert avait insisté sur l'importance. Et à mon retour, sans passer par Robert, je suis allé voir le curé, j'ai dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas moi qui s'occupe de ça, nous avons un prêtre qui est nommé par l'archevêque, chargé d'accueillir et accompagner des catéchumènes. Donc, donnez-moi vos coordonnées, il vous contactera. Très rapidement, il m'a contacté. C'est un prêtre français de Paris, membre de Prado, qui était en mission en Iran, et qu'il a été nommé par l'archevêque de Téhéran, l'archevêque d'Iran, responsable de catéchuména. Donc je suis allé le voir. Il m'a dit, bon, ok, on va commencer notre parcours. J'ai dit, ben non, on ne va pas commencer mon parcours, ça fait plus d'un an que je suis formé par l'Église évangélique. Allez vous faire baptiser chez les évangéliques, pourquoi vous êtes là? Ici, on ne baptise pas comme ça. Il faut envisager au moins 3 ans. J'ai dit, mais enfin, pourquoi? Mais monsieur, vous ne vous rappelez pas que vous êtes en Iran? Si on vous baptise aujourd'hui, demain vous vous faites arrêter avec 2 gifles, vous reniez Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Comment nous, en tant que prêtres et évêques, on va justifier la légèreté à laquelle nous vous avons formé. Ici, quand vous êtes formé, vous avez une telle assurance dans la foi que même sous la torture, vous ne reniez pas le Christ. C'est ça le principe d'évangéliser et former depuis toujours dans l'Église catholique. Alors, si vous voulez, on recommence. Sinon, il est assez pété ce prêtre, hein? Même encore aujourd'hui, à 92 ans. J'ai dit, ok, on commence. Donc, nous avons travaillé pratiquement 1 an ensemble, individuellement, pour qu'il puisse être vraiment sûr que je ne suis pas un espion du régime islamique, avant de me présenter à l'équipe. L'ensemble de l'équipe qui se préparait au baptême. On était 12. Mais assez rapidement, notre groupe a été dénoncé. Et dans cette période-là, je m'étais marié avec une cousine éloignée de mon copain Robert. On se rencontrait une soirée chez Robert. Coup de foudre. Ben, il faut qu'on se marie. Donc, tous les copains et les copines qui étaient avec moi en catéchuména, donc une fois qu'on venait les chercher, l'Église faisait partie pour les protéger. Mais ils étaient célibataires, moi j'étais marié avec une femme, un bébé de... Je ne pouvais pas partir, et je ne voulais pas partir. Jusqu'au jour où ils sont venus me chercher à l'hôpital, et ils m'ont bien servi pendant une semaine. Très bien. Et à l'hôpital où je travaillais, il y avait 2 médecins qui étaient très impliqués dans le gouvernement islamique. Mais des médecins athées comme pas possible. Et ils savaient que je me suis converti et que je marchais vers le baptême. Ils le savaient, mais on était tellement proches. Et à chaque fois, il me disait, oh, si tu penses qu'un jour tu arriveras à nous christianiser, non, non, non. C'est grâce à eux qui travaillaient avec le gouvernement. Ils étaient responsable des hôpitaux, des prisons d'Iran et le procureur de la République, un qui travaillait directement avec le procureur de la République. Et il le disait sincèrement, quand sous la torture quelqu'un y décédait, lui, il était le seul à signer l'acte de décès. C'est eux qui m'ont fait sortir de prison. Ils sont venus me chercher à prison, tous les deux. Et ils m'ont dit, on te donne le temps de quitter l'Iran, 24 heures, juste le temps de faire le trajet entre Téhéran et la frontière turque. Va-t'en. Parce que ne t'occupe pas de nous. Va-t'en. Ma femme, mes enfants. Toi, va-t'en. Le reste, on s'en occupe. J'ai appelé le prêtre français. J'ai dit, voilà. Il m'a dit, oui, je sais, ta femme et ton fils ont le cachet dans telle maison. Mais, j'ai dit, on me demande de partir. Il m'a dit, ben oui, l'évêque, il donne l'ordre de partir. Donc, je suis parti. Sans voir mes courants, ma femme et mon enfant. Et ils sont venus un mois après. Les copains, ils se sont occupés, l'église s'en est occupée. Ils sont venus me rejoindre à Istanbul. Voilà ma conversion. Et après, bon. Il n'y a pas de croix ici, avec crucifix. Et c'est dommage. Il n'y a pas. Où ça? Ah oui, mais vous savez.
Dans le placard.
Non, 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 ne le dérangez pas, le nom. Vous savez, Jésus, quand il met la main sur quelqu'un, il ne lève jamais. Sa main reste pour toujours. Toujours. Ma fille est née ici. Et après la naissance de ma fille, l'archevêque d'Iran m'a appelé à me préparer pour le sacerdoce. Parce que j'avais reçu le baptême dans le rite chaldéen, catholique chaldéen, une rite catholique orientale, qui permet aux hommes mariés de devenir prêtres. Donc, moi je dis oui, je suis prêt. Il a demandé à ma femme, il a donné la bénédiction. Et j'ai commencé mes études en lien avec le cardinal de Siché, une année à l'école Notre-Dame. Et après, je suis passé à l'Institut catholique pour 3 ans avant d'arrêter mes études parce que ma femme est tombée de la leucémie. Donc l'évêque m'a dit, ta mission, c'est auprès de ta femme et tes enfants. En 98, ma femme est décédée et l'archevêque d'Iran était parti en 97. Et la nouvelle archevêque, ce même curé catholique qui m'avait reçu, le curé de Robert, mon copain, On était devenus très, très amis. La nouvelle archevêque, il m'a dit un an après le décès de ma femme, il m'a dit, alors qu'est-ce qu'on fait avec ton dossier? L'archevêque t'avait donné la dispense pour t'occuper de ta femme, tes enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, c'est encore en cours ce dossier. Il m'a dit, bien sûr, si tu acceptes, je t'appelle. Mais il y a une condition. Je ne veux plus que tu travailles à l'hôpital. Tu quittes ton travail, tu te mets à plein temps aux études et le plus rapidement possible. En 2003, j'ai fini mes études, mais avec le problème de droit canon, des choses comme ça, il n'a pas pu m'ordonner. Il y avait un empêchement canonique. Bon. Donc du coup, il m'a libéré de engagements. Donc j'ai repris un travail, mais plus à l'hôpital. J'ai commencé à travailler comme traducteur-interprète pour l'État français. Différents ministères, ministère de l'économie, justice. Donc, jusqu'en 2012, où les gens avec qui je travaillais m'ont dit, les Iraniens ont trouvé ta trace, va te mettre au vert. Change métier dans une autre branche, disparaît de la circulation. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Lys-sur-la-Sorgue. C'était prévu pour un an, et vu le cadre magnifique, j'ai dit aux enfants, je ne remonte plus. Donc je suis resté. Je suis resté. J'ai fait connaissance avec l'archevêque au cours d'un repas chez un médecin ami. On était assis l'un à côté de l'autre. J'avais là-bas, mais pas lui. C'est moi qui lui ai filé le virus. Et une fois qu'il a pris mon parcours, il m'a dit, bah, j'ai besoin de prêtres. Si vous acceptez de quitter l'église chaldéenne et entrer dans l'église latine, je pourrais vous appeler. J'ai dit, pour moi, l'église, c'est l'église, hein, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, ok, je ferai le nécessaire de transfert. Et le pauvre, il ne savait pas à quoi il s'engageait. Ça a pris 3 ans pour qu'il obtienne l'autorisation par mon ancien évêque et le patriarche. Et une fois qu'il a été fait, il m'a dit, est-ce que je pourrais avoir votre dossier d'études à l'Institut catholique ou au Centre Sèvres? Chez les jésuites. Il dit, bien sûr. Voilà. Mais il dit, peut-être que ce sera pas mal que vous fassiez un petit mise à jour, une piqûre de rappel au Studium Notre-Dame de Vie.
Ah oui.
J'ai dit, pourquoi pas. Donc, il a donné le dossier au directeur du Studium. Mais écoutez, il a suivi même des cours que nous n'avons pas ici, alors laissez-le tranquille. Et là, c'est parti assez rapidement, ordination, intronisation, institution, lectorat et acolyte en même temps, le même jour, à Carpentras. Qui sont les Carpentras? Et ordination diaconat à l'église Sacré-Cœur d'Avignon. 2017, sacerdoce, 2018, Sacré-Cœur d'Avignon. Premier ministère, mon diaconat s'est passé à Lys-sur-la-Sorgue, première année de sacerdoce Lys-sur-la-Sorgue, transfert à Montfavet un an et demi, et après, je sentais le besoin de vivre vraiment en retrait pour pouvoir travailler l'écriture et le travail de la Bible. Et surtout prier, 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 prier. Et je vais parler avec l'évêque en disant, j'ai le désir de devenir ermite. Oui, bon, ok, c'est pas ça que je sentais en vous, bon, d'accord, mais quand même, on fait un essai à moi, pour voir si vous tenez le coup d'être seul. Je vais chercher les lieux permettant pour qu'un ermite puisse s'installer. 2 mois, 3 mois, rien, aucune nouvelle. Les vacances d'été, aucune nouvelle. Mois de septembre, il m'appelle, on peut se voir, bien sûr. Voilà, j'ai trouvé un endroit. Vous pouvez vous retirer pendant un mois. J'ai dit, mais ça ne va pas. On est tout au début des activités pastorales. Je ne veux pas abandonner mon confrère pour aller commencer une expérience. Ce n'est pas possible. Ce n'était pas le moment, je le savais. Novembre, Covid, boum, Elias, 35 jours enfermé dans l'appartement. Donc, vraiment, je vivais seul. mon confrère, il faisait des courses, il était posé devant la porte de ma maison. Il y avait trois médecins qui se relayaient pour les visites, une infirmière qui venait pour prendre des prises de sang, tout ça, mais 35 jours. Je suis sorti indemne. À peine sorti, tu travailles, tu étais à mon favori.
Oui, c'est ça.
À peine sorti de cette période d'ermite obligatoire, l'évêque m'appelle. J'ai besoin de vous à l'ermitage, mais pas pour commencer votre vie d'ermite. Allez à l'ermitage de Saint-Jean. J'ai l'or. Donc, j'ai commencé à vivre en ermite depuis le 22 décembre 2020. Jusqu'à maintenant. Alors, je ne suis pas un ermite vraiment reculé. Non. Je ne suis pas en quelque sorte fermé. Il ne faut pas oublier que l'un des devoirs et vocations d'ermite, c'est l'accueil et l'accompagnement. Quand on regarde les grands ermites, entre autres, vous pouvez regarder la vie de Saint Philippe Néri. Il existe même en bande dessinée qui a été primée au festival de bande dessinée près de Poitiers, où c'est
Angoulême.
C'est que, oui, il y a un festival d'Angoulême qui juge le couple qui ont fait ce livre. Ont eu le premier prix. Donc, demandez, lisez. Voilà. Alors, dans quel milieu vous allez accomplir votre mission? Quelle heure est-il?
21h25.
Vous savez, un oriental, quand il commence, hein, ça peut aller jusque le lendemain. Hein, si. 21h25?
21h25.
Bon. Dans quel milieu vous allez accomplir votre mission? Qu'est-ce que vous entendez par le mot mission? Aujourd'hui, il y en a pas mal qui ont cette impression que si prenez une haut-parleur en criant christianisme, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ils sont en train d'évangéliser. Mais pour vous, la mission et évangélisation, c'est quoi?
Par l'exemple.
Comment?
Comme le médecin qui vous a touché la première fois, vous avez posé la question.
L'exemple de la vie. Pour pouvoir être exemple par sa vie, il faut être bien formé et vivre sa foi comme lui. Je vous assure, quand il avait l'âge d'être catéchisé, nous parlons de l'Iran, nous ne sommes pas en Occident. Pour vous donner un exemple, les textes de Concile de Vatican II, hein, il n'y a pas, hein? Le catéchisme des enfants, ça se faisait par les parents, les grands-parents. Mais vous voyez, comme ils vivaient leur foi dans la plénitude, les enfants grandissaient. Donc ils pouvaient. Mais il faut avouer qu'à son époque, c'était facile. Hein? Surtout en Iran. Mais aujourd'hui, dans notre monde moderne, avec tous les moyens de communication qu'il existe, avec ce supermarché bien garni des idées, des pensées, c'est difficile, hein? Pour pouvoir vivre sa foi, nécessite un ancrage vraiment profond dans la foi.
Spirituelle.
Oui, spirituelle. important de pouvoir vivre la prière pleinement. Rien de plus important pour rester vraiment attaché à la branche que la prière. Et essayer d'avoir le plus rapidement possible, le plus tôt possible, quelqu'un qui puisse devenir un référent spirituel. Vous appelez comment ?
Lorraine.
Il y a une Sainte Lorraine ?
Non.
Non.
Guillaume.
Ah ! Bien.
Marc.
Il y en a qui ont la chance. Hein. Bien entendu, vous avez vos saints patrons. Hein. Il ne faut pas rester à l'écart. Un seul prénom ?
Oui. Trois prénoms, mais je ne
sais. Oui, Lorraine.
Géraldine.
Oui.
Emmanuel.
Ah. Alors, il faudra que vous commenciez, pour moi, le plus important, hein, à connaître vraiment vos saints patrons. Première démarche. Celui qui porte son nom, qui sait comment il a vécu, pourquoi il a vécu, dans quelle époque il a vécu, est-ce que moi je peux le vivre? Et après, vous avez la possibilité de connaître des saints, particulièrement des saints qui par leur message pourront vous toucher, de vous approcher, de vous fier à leur prière, et qui est toujours un référent en dehors des parents, de parrain et marraine, un prêtre, une religieuse, un religieux, pour qu'ils puissent vous entendre et qu'ils puissent vous donner un accompagnement spirituel. C'est vraiment très, très bon, ça pour vous, pour devenir exemple dans la vie. Nous sommes d'accord. Bon, mais alors, vous allez être exemple devant qui? Qui est-ce que vous espérez toucher?
Toutes les personnes qu'on rencontre.
Oui. Par exemple?
Déjà dans notre famille, dans les personnes qu'on va rencontrer, je ne sais pas, dans la rue, en cours, les personnes au lycée, à la fac.
Oui, ça c'est merveilleux.
Et après, là, particulièrement dans le chapitre, par exemple, en camp, lorsqu'on va marcher, toutes les personnes qu'on va croiser ou les personnes qu'on va ramener au chapitre, parce qu'on les aura appelées.
Quand vous marchez en chapitre, vous êtes des extraterrestres. Hein.
Ouais, un petit peu, oui.
C'est pas grave. Il ne faut pas le prendre dans mauvais sens. Lui-même, le maître, nous a dit, je ne suis pas de ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. C'est pas grave que nous soyons extraterrestres. Mais encore, et encore. Dans la rue, dans le lycée, dans l'université, est-ce que vous professez rapidement, facilement, que vous êtes chrétien? Ou vous êtes timide, comme la société?
Oui.
Tu ne parles pas facilement.
Ah si, si. Non,
tu dis, si, tu dis ouvertement que je suis chrétien, je crois en Jésus.
Oui.
Bien. Comment tu t'appelles?
Pierre.
Pierre. Ouais. Bon, les autres?
Un peu timide, non? Mais on ne pas, oui, il faut qu'on soit chrétien, on fait différemment. Ils ont les amitiés, les amis. Ils ont les amitiés,
J'ai pas entendu. là, il a utilisé un mot très, très important. Témoigner. Est-ce que pour témoigner, tu essaies d'avoir un support particulier ou bien n'importe quelle occasion qui se présente, tu peux enchaîner avec le regard de la foi? Imaginons, support, une cadre. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une cadre pour que tu puisses librement, ouvertement témoigner, ou bien, par exemple, dans le milieu de travail, il y a un événement, tu peux tout de suite embrigader en disant, là, sur les questions de foi, si on regarde avec un regard de foi, c'est un peu louche, hein? Mais si on veut le vivre dans la foi, il faut le faire comme ça. Parce que je suis chrétien et le Seigneur nous donne des préceptes à respecter. Comment tu fais?
C'est difficile.
Je veux bien croire. Hein? Je veux bien croire. C'est pour ça que l'exemplarité, c'est-à-dire témoignage de vie à travers les actes de tous les jours, c'est la solution la meilleure. Hein? D'être constant dans notre façon d'être. Et là, je pense que si vous pensiez le travail que vous faites, même les études que vous le faites pour rendre gloire à Dieu, qui puisse être considéré comme une prière, parce que vous n'avez pas 24 heures sur 24 votre chapelet à la main pour réciter le chapelet ou bien dédier d'autres choses, hein? C'est pas possible. Mais si vous dites votre chapelet le matin avant de commencer et de dire à partir de maintenant que je mets le chapelet dans ma poche, chaque acte que je fais, chaque parole que je dis, puisse être considéré comme une graine de chapelet. Vous verrez, le poids de travail change, parce que vous n'êtes pas le seul qui le porte. Vous restez soudé en permanence. Et la façon où vous faites votre travail porte un autre effet sur ceux qui vous voient. Est-ce que ça vous arrive d'être en lien et en face à des musulmans? Et là, comment ça se passe? Comment ça se passe? Tant que vous ne dites rien. On ne débat pas. Pas de face à face. Devenez les sommeurs. Les sommeurs d'amour. Il n'y a pas de dialogue. Parce que c'est deux mondes complètement différents. Quand j'entends surtout, quand c'est un prêtre qui me dit « Nous avons le même Dieu, nous pouvons prier ensemble », je suis désolé. Moi, je ne peux pas prier avec quelqu'un en disant que j'ai le même Dieu que toi, alors que le mien est amour. Et le tien dit, si telle personne ne croit pas en moi, vous pouvez lui couper la tête, qui est dans l'ordre d'assassiner. C'est pas le même Dieu. C'est pas le même Dieu. On a essayé d'embrigader dans dans les mouvements dialogue islamo-chrétien, tout ça. À Paris, j'étais naïf, hein. Surtout le prêtre qui m'a brigadé, c'était un copain. Je suis allé. Une fois, je ne suis pas retourné pour le deuxième fois. Il y avait deux intervenants. Un côté historique de l'islam, l'autre une théologienne qui faisait un exposé sur l'histoire du christianisme. Une consacrée. Hein? Il attend qu'elle a pu salir le christianisme par les guerres de croisade, par les périodes sombres. Et de l'autre côté, il a fait un enjolivement de la gloire de l'islam. Ce qui est complètement aberrant. Vous voyez. Et pour finir, ils ont dit, il y avait deux imams, il y avait ce prêtre en question, responsable de dialogue islamo-chrétien de son diocèse. Hein. On va prier ensemble. Alors, nous les chrétiens, on prie avec le Notre Père, le plus beau message d'amour. Et les musulmans, ils ont dit, ben nous, on va prier avec le premier surat, qu'ils appellent le Fatiha. Dès qu'ils ont annoncé avec le surat, je me suis levé. Je ne suis même pas resté pour réciter le Notre Père. Et le prêtre qui court après moi, j'ai dit, mais enfin, tu ne te rends pas compte, tu pries avec le Notre Père, et l'autre qui prie avec un sourate, que les deux derniers versets sont condamnation des juifs et des chrétiens. Quelle unité, quel dialogue, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas à débattre. Parce que vous ne pouvez pas les convaincre dans un débat. Il n'y a pas de raisonnement. Les pauvres, ils ne connaissent, eux-mêmes, ils ne connaissent pas l'islam. Quelque part, c'est tant mieux. Parce que si ils connaissent l'islam, si ils apprennent tout ce qui est dit dans le Coran, 124 versets, de Coran, c'est l'ordre direct de Dieu Allah pour tuer ceux qui refusent de croire en lui. Moi, j'ai dit merci Seigneur parce qu'ils ne connaissent pas le Coran. Il n'y a pas de débat. Mais par contre, quand le moment se présente, tout simplement, tu sais, Jésus t'aime parce qu'il est amour. Jésus t'aime. Si l'occasion est propice, Jésus tellement t'aimait qu'il est venu mourir pour toi. Des choses comme ça. Croyez-moi, ce sont des missiles à tête nucléaire russe. Il faut le lancer, il ne faut pas hésiter. C'est mot d'amour, rien d'autre. Rien d'autre. Vous avez sommé, l'Esprit-Saint travaille. Celui qui sème le grain, qui dort ou qui veille, le grain pousse. Semez la parole d'amour. Ne soyez pas dans l'esprit, il faut absolument les convertir. Non. Parce que ça dénature le message de Jésus. On... Et si on n'arrive pas à le faire, ça arrive souvent, ça le déçoit. Ah, tu vois, Elias, tu n'as pas pu accomplir ta mission que Jésus t'avait accomplie. Hein. Tu n'es pas capable, hein? Non. Pour éviter ton dans le côté. Mais seulement signaler avec des petits mots. Dieu t'aime parce qu'il est amour. Jésus t'aime. Si Jésus était là, si Jésus était là, si Jésus était là, son amour te couvrirait. Surtout, n'entre pas dans une confrontation frontale.
Ok.
Mais par amour. Et ça, c'est valable, même dans votre quartier, dans vos écoles, vos universités. J'ai le souvenir d'un... Un jour, dans l'aéroport, cet homme était destiné à prendre l'avion et de partir. L'avion annulé, il est obligé de rester dans l'aéroport, un des hôtels de côté. Et une dame attire son attention. L'homme, complètement bouleversé, il s'approche avec les yeux remplis de larmes en regardant cette dame. Il lui dit, madame, vous savez que Jésus vous aime. Et il vous aime tellement qu'il est mort pour vous. Rien de plus. Le lendemain matin, il rencontre la dame au même endroit. Lui, il est obligé de passer. Et la dame lui répond avec larmes, je n'ai pas bougé d'ici depuis hier et je n'ai pas arrêté de pleurer. Essayons de faire connaître avant tout ce Dieu d'amour à qui qu'il soit. Et l'Esprit Saint fera le reste. Amen. Vous n'avez pas de questions?
Si je suis curieux, comment se passent vos journées en tant qu'ermite?
Jean, ça fait 2 semaines que tu m'observes.
Oui.
Comment ça se passe mes journées?
Oh, c'est très intense, hein? Le matin, il a été prié dans les livres. 3 heures, ou bien, je ne sais pas, hein, le temps. Et comme le père, il ne prend rien, ou pas ne prend rien, mais au moins le repas avant la messe. Du coup, pendant la semaine, la messe est à 11h. Du coup, avant 11h, il prend des cafés, tout ça. Mais pendant la semaine sainte, depuis le mercredi saint, le dernier repas, lui est avec moi. Et après, il commence, parce que la messe, ou la passion de Jésus, du coup, le père Elias s'est aidé de prendre le repas jusqu'à le dimanche soir. Ça fait presque 3 jours. Le dimanche, le samedi, le dimanche, 4 jours.
Je vous invite à faire un petit tour de temps en temps à l'ermitage, au moins pour ceux qui sont dans le coin. Carpentras, c'est pas loin.
Oui, je
le vois. Hein? Tu connais?
L'ermitage de Saint-Jean?
Oui.
Oui.
D'accord. L'ermitage de Saint-Jean est situé dans une série de collines avec beaucoup de circuits de randonnées, de balades. Et mes journées parfois se remplit avec les rencontres avec ces gens-là. J'ai une toute petite bureau devant la porte de sacristie, dans la partie limitée de sanctuaire, qui est fermée avec les vitres, qui permet de le chauffer l'hiver. Les gens, ils viennent par curiosité, ils regardent. Vous êtes le gardien? Oui, je suis le gardien. Donc, ils s'approchent timidement, ils parlent. Alors, comment ça se passe? Quelle journée vous passez ici? Donc, je leur dis, ah, vous êtes prêtre. Et là, les discussions changent. Ça prend un autre. Depuis un an que je suis là, un peu plus un an, j'ai 15 personnes qui se sont converties. Des personnes qui avaient quitté l'église depuis plus de 40 ans. Maintenant, ils viennent à la messe. J'ai une personne qui se prépare pour recevoir le baptême. Bien sûr, dans sa paroisse. Bon. Parce que Saint-Jean, c'est un sanctuaire, ce n'est pas une paroisse. Mais il a commencé sa formation pour recevoir le baptême. Et d'autre côté, je reçois beaucoup de monde pour le sacrement de réconciliation, la confession, la célébration de tous les jours, les prières. Les journées sont remplies. Les journées sont remplies. Quand j'étais à Montfavet, je faisais 102 kilos. Maintenant, je fais 84. Et ça me va très bien. J'ai de moins en moins de douleurs d'articulation dans les jambes. Voilà. Pierre, tu es d'où?
Je suis d'à côté de Grenoble. Dire ce que vous avez dit par rapport au dialogue islamo-chrétien dans mon diocèse.
Ah, ça va pas marcher. Non. Je ramasse assez de crocs sur la tête. Non, ça va pas marcher, surtout avec Grenoble. C'est où Grenoble exactement? L'évêque, c'est qui?
Il n'y a plus d'évêque. Il est devenu l'archevêque de Toulouse.
Et la nouvelle n'est pas nommée?
Comment?
La nouvelle n'est pas nommée?
Non.
Il n'y a pas encore.
Il y a pas mal de sièges vacants. En France.
Parce qu'avec l'ancien, c'était pas possible.
Il y a la ministre, c'est ça?
Ligne droite dans le dialogue. Hein. Avec l'ancien archevêque d'Avignon, j'étais tranquille. Il n'y avait même pas une équipe de dialogue islamo-chrétien. D'ailleurs, le curé de Carpentras, il m'a demandé de préparer des conférences pour les prêtres, justement sur l'islam. Parce que si ils veulent dialoguer, qu'ils sachent sur quoi ils veulent dialoguer. Oui. Mais Gabriel, il est très bien.
Oui, il est bien. Mais c'est Andrés aussi.
Andrés, il est jeune, bien sûr. Oh, c'est un bébé, Andrés.
Oui, bien sûr.
Andrés, il est très bien. Pour les jeunes, mais...
Oui, il est jeune, mais pour les jeunes, justement, il est parfait.
Mais Gabriel, il a deux fois. Enfin, il a vécu ici.
Oui, tout le
monde le connaît. Bon, à part ça, d'autres questions?
Tout à l'heure, vous disiez que le pasteur, il avait dit que c'était ça la différence entre les catholiques et les protestants.
Quelque part, il se moquait. Parce que nous, les protestants, on évangélise, et les catholiques, ils n'ouvrent pas les portes. Et ça, c'est vrai. L'église d'Iran est composé de trois parties. De l'église locale, donc, qui sont fondées par les apôtres. L'église chaldéenne dans laquelle j'étais formé, donc, fondée par saint Thomas, apôtre, avec Jude et Thaddée, que vous allez voir rapatriés, et l'église arménienne. Bien sûr, il y a l'église latine aussi qui est présente, mais les sièges sont très très récents. Mais l'église chaldéenne, je parle particulièrement parce que je suis né dans cette église. À une époque, il comptait 180 évêchés allant jusqu'à Chine. Siège de patriarcat à deux reprises était dans la Perse, en Iran. Aujourd'hui, l'église catholique chaldéen en Iran représente moins 5000 fidèles sur 3 diocèses. Pourquoi? Parce que malheureusement, cette église, comme l'église arménienne d'ailleurs, ils se sont tellement penchés sur leur aspect ethnique que l'aspect de la foi. Pour vous dire, un jour, je me suis marré quand quelqu'un de cette église m'a dit « De toute façon, nous sommes chrétiens avant le Christ. » Étant donné que cette église est fondée en Mésopotamie ou en Chaldée et tout ça, là, pour s'attacher à Abraham, il évinçait Jésus. Donc, ils n'ont pas accompli leur devoir de mission depuis l'islam. C'est pour ça que cette église s'est affaiblie, 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 affaiblie. Et le pasteur protestant, c'est à ça que vous avez allusion. Alors que les évangéliques et les pentecôtistes en Iran, ils font un tabac. Aujourd'hui, 2 millions de fidèles dans l'église protestante. Alors qu'à l'origine, l'église protestante en Iran n'existait même pas.
Et vous avez quand même eu le courage d'aller faire passer dans l'église catholique chaldéenne, alors qu'il était beaucoup moins accueillant.
Vous savez.
Non, parce que vous êtes fait rejeter quand même par, finalement, par le curé.
Catholique, oui, mais ma mère était turque azari et mon papa, il était perse, perse, à 100%. Et on dit que les Turcs sont un petit peu comme des Bretons, des durs. Et là, je pense que mes 50% turcs, ça a joué énormément pour foncer les portes. Non, c'est vrai. Alors, parmi les prêtres que j'ai rencontrés, le pasteur en question que je vous parlais, Edouard, que nous sommes toujours en contact, il est responsable de l'église évangélique en Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient aujourd'hui, c'est sous sa responsabilité. Et le prêtre catholique qui m'avait reçu, qui après est devenu archevêque d'Iran, et aujourd'hui il est archevêque de l'église chaldéenne en Turquie. Et le prêtre catholique qui m'a formé, le pauvre, il est dans une maison retraite pour les prêtres, médicalisé à Paris 14e, 92 ans. D'autres questions? Bon, ok. Si vous voulez bien, on va dire le Notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Il ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Allez demeurer dans la paix et la joie de Dieu. N'oubliez pas, vous les jeunes, vous êtes l'avenir de l'Église. Et le Seigneur consacre. Bonne mission.
C'est quelque chose pour vous remercier d'être venu.